Voilà, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 15. Premier livre de Samuel, chapitre 7, verset 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël et il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen. On va demander au Seigneur, encore une fois, de nous conduire. Merci de tout notre cœur, Seigneur, pour ces moments passés auprès de toi, dans la louange, dans l'adoration. Merci parce que nulle part ailleurs, nous ne sommes aussi bien qu'en ta présence. Et nous te prions maintenant que tu nous conduises dans la méditation de ta parole. Mes frères et sœurs et moi-même avons besoin de toi. Que ton esprit, Seigneur, repose sur nous pour ouvrir notre entendement spirituel et nous permettre aussi d'avancer selon ton conseil. Nous comptons sur toi, ô notre Dieu, parce que nous savons qu'en dehors de toi, rien ne peut arriver à porter du fruit. Mais si ton esprit est à l'œuvre, alors ton nom sera glorifié dans nos vies. Alors viens-nous en aide et merci dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez remarqué le texte que nous avons choisi ce matin pour base de méditation est relativement court. Et je vais commencer par vous demander de prêter attention à ce premier verset. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Mes frères et sœurs, vous savez aussi bien que moi d'ailleurs que bien commencer dans la vie avec le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais la parole de Dieu dit aussi que ce qui est bien, c'est d'être persévérant jusqu'à la fin. Bien commencé et mal terminé, ça a été le partage de quelques personnes, notamment dans la Bible. Nous avons un exemple frappant qui est celui du roi Ozias. Ozias est un homme qui a été choisi par Dieu. Il est monté sur le trône alors qu'il était encore relativement jeune et il a accompli en tout point les choses qui étaient agréables à Dieu. Il a conduit le peuple de Dieu dans une certaine victoire, dans une certaine spiritualité, mais à un moment donné, son cœur s'est élevé et il a pensé probablement que tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait par la force de son bras et il a oublié combien la grâce de Dieu avait été merveilleuse dans sa vie et au travers de sa vie pour être en bénédiction pour le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit que parce qu'il s'est élevé et qu'il a commencé à occuper une place que Dieu ne lui donnait pas, alors le péché est entré dans son cœur et il s'est manifesté par le fait que la lèpre a éclaté sur son front. Et quand ceux qui ont vu cela, eh bien, sont entrés en action, ils l'ont mis dehors et cet homme est malheureusement le témoignage de quelqu'un qui a bien commencé et qui a mal fini. Rappelons-nous d'une parole du Seigneur Jésus qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et au verset 22. Voici comment Jésus parle. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » J'ai souvent été frappé par un texte aussi qui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel. Et ce prophète dit que quelqu'un peut marcher en contradiction avec la volonté de Dieu, être rebelle, contredisant, être un pécheur, vraiment reconnu de tous comme tel, mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu peut le saisir, et la Bible déclare, s'il se repent, alors Dieu efface son passé. Et il y a un témoignage qui m'a toujours été très difficile à comprendre. Il est dit que le passé est oublié, Dieu ne s'en souvient plus. Et je me suis toujours demandé comment ce Dieu qui est le créateur de la mémoire et qui nous l'a communiqué, eh bien, était capable de ne plus se souvenir du péché de quelqu'un qui se repentait. Par contre, la Bible dit aussi, et c'est le même prophète Ézéchiel qui déclare cela, « Si quelqu'un marche fidèlement avec le Seigneur, accomplit sa volonté, et dans tout ce qu'il fait, eh bien, est conforme à la volonté de Dieu, mais qu'un jour, ou à un moment donné, il se détourne de la voie de la justice, se détourne de la voie de l'obéissance à la parole de Dieu, et marche dans l'iniquité, alors il est dit qu'à ce moment-là, le Seigneur ne se souvient plus non plus de qui il était. Et tout ce qu'il a accompli avant n'a plus aucune valeur aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, la parole de Dieu, sous le contrôle du Saint-Esprit, eh bien, nous invite à être persévérants et à porter nos regards sur lui humblement. Parce que ce que nous le sommes par la grâce de Dieu. Et jamais personne ne pourra se glorifier de la place qu'il occupe, quelle que soit cette place, dans l'Église ou ailleurs, quelle que soit cette place, jamais personne ne pourra se glorifier, car tout nous a été accordé par notre Seigneur, tout est l'œuvre de la grâce de Dieu. Et merveilleusement, c'est possible, effectivement, de dire avec une grande allégresse ce que nous venons de chanter ensemble. Je suis enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous lui appartenons. Et en face, quelquefois, des attaques de l'adversaire, l'Esprit de Dieu vient nous secourir pour que nous puissions effectivement être affermis dans notre position. Et je ne peux pas me prévaloir du lendemain, parce que je ne sais pas ce que le lendemain me réserve. Mais je sais une chose, c'est que Dieu m'a promis d'être le même jusqu'à la fin, si moi, je garde les yeux fixés sur lui. En dehors de ça, il n'y a pas de garantie pour nous. Mais tant que nos yeux sont fixés sur lui, alors nous pourrons lui rester fidèles. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 7, nous rappelle quelque chose. Il dit « Souvenez-vous de vos conducteurs spirituels. » Et en dernier ressort, il dit « Souvenez-vous de la fin de leur vie et imitez leur foi. » Vous voyez, mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est ce que nous pouvons constater à la fin de la vie de quelqu'un. Par exemple, quand j'ouvre le Nouveau Testament et que je lis les épîtres de l'apôtre Paul, je découvre, par exemple, ceci. C'est que cet homme qui a accompli des choses tellement merveilleuses pour l'œuvre de Dieu, pour le service de Dieu, humblement, eh bien, arrive à la fin de sa course et il dit « J'ai gardé la foi et j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, eh bien, la couronne de gloire et de justice m'est réservée. » Ça veut dire donc que cet homme, jusqu'au dernier moment, est resté fidèle, les yeux fixés sur Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, son exemple est vraiment quelque chose que nous pouvons imiter. D'ailleurs, rares sont ceux qui, comme lui, peuvent dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ ». Que le Seigneur nous aide les uns et les autres pour que nous puissions effectivement être jusqu'à la fin fidèles à notre Dieu, obéissant à la parole de Dieu, soumis aux injonctions du Saint-Esprit. Et pour ce faire, alors, il y a une responsabilité qui nous incombe. Regardez ce qu'il est dit au sujet du prophète Samuel. Il fut juge en Israël pendant toute sa vie, mais chaque année, il accomplissait quelque chose, et je dirais, et ça sera le titre de mon message, pour le frère en question, il va le retenir, le titre de mon message c'est « L'itinéraire d'un homme spirituel ». Samuel, chaque année, a accompli un certain itinéraire. Il est dit qu'il allait à Bethel, ensuite il allait à Gilgal, ensuite il passait à Mitzpah, puis enfin il retournait à Rama où il avait sa demeure, où il avait aussi élevé un autel, et là il continuait à juger le peuple d'Israël. Nous allons essayer ensemble de découvrir ce que cela représente pour chacun d'entre nous. Nous aussi, nous avons un itinéraire spirituel à parcourir. Et si nous sommes fidèles pour accomplir cela, eh bien le Seigneur permettra aussi que jusqu'au bout, nous puissions le glorifier. Vous savez, il est dit de Samuel qu'il jugeait Israël. Mais la parole de Dieu, dans notamment l'épître de Paul aux Corinthiens, et en particulier la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 5, dit ceci. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Mais l'apôtre Paul continue en disant, « Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes pas réprouvés. » Alors, ce terme qui est utilisé, « examinez-vous vous-même », c'est comme si Dieu nous demandait, sous le contrôle de l'Esprit-Saint, de jeter un regard rétrospectif dans notre vie pour savoir si, par rapport à l'expérience initiale, c'est-à-dire le point de départ de notre vie avec le Seigneur, il n'y a pas eu un changement, il n'y a pas eu un certain laisser-aller, il n'y a pas eu un certain relâchement. Vous savez, ceci pourrait arriver à n'importe qui parmi nous. Lorsque Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, s'adresse à une certaine église qui s'appelle l'église d'Éphèse, il fait des éloges à cette église, mais à un moment donné, il dit « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. » Je comprends maintenant pourquoi la parole de Dieu au sujet de l'itinéraire de Samuel commence par dire qu'il allait à Bethel. Bethel, ça a une signification profonde. Et je serais surpris que ce matin, parmi nous, il y ait quelqu'un qui ne sache pas ce que signifie Bethel. Bethel, ça signifie maison de Dieu, maison de l'Éternel. Cette ville, au préalable, s'appelait Luz. Mais vous savez que là, il y a eu une expérience faite par un homme dont nous connaissons aussi l'expérience, et cet homme s'appelle Jacob. Jacob a utilisé la ruse pour, en quelque sorte, prendre, subtiliser le droit d'aînesse. Et vous le savez aussi bien que moi, parce que vous connaissez ce récit pour l'avoir lu dans la parole de Dieu. Après avoir fait cela, il a découvert la haine de son frère, il a dû prendre la fuite et il est arrivé justement à cet endroit précis, Luz, où il s'est endormi après avoir pris une pierre dont il a fait son chevet pour reposer sa tête. Et pendant cette nuit, il a eu un songe. Et dans ce songe, il voyait une échelle dont le bas touchait le lieu où il s'était endormi, et le sommet, le ciel, et il voyait les anges de Dieu monter et descendre. Et quand il s'est réveillé le matin, écoutez bien ce qu'il a dit. « Oh, que ce lieu est redoutable !» Et il a ajouté « Dieu était là !» Et je ne le savais pas. En passant, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. C'est mieux de dire « Dieu était là !» et je ne le savais pas, que dire comme, hélas, Samson, un peu plus tard, a dû le reconnaître, il pensait que Dieu était encore avec lui, mais il n'était plus avec lui, et il a été vaincu. Ce matin, mes chers frères et sœurs, je voudrais vous dire, que vous le sentiez ou que vous ne le sentiez pas, Dieu est là. Pourquoi ? Parce que Dieu ne change pas. Et ses promesses, il les tient toujours fidèlement. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai jamais. Et notre Dieu est fidèle. Et qu'est-ce qui s'est passé pour nous un certain jour? Le jour où finalement, nous avons nous aussi découvert ce qu'est la maison de Dieu. Entre parenthèses, la maison de Dieu, ce n'est pas ce lieu. La maison de Dieu, c'est vous et moi. Et la Bible dit que nous sommes appelés le temple du Saint-Esprit. Et le même apôtre Paul, duquel j'ai parlé tout à l'heure, dans la même épître, dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est une chose formidable que de savoir que nous sommes devenus par sa grâce l'habitation de Dieu en esprit. Cependant, cela ne peut être valable que dans la mesure où nous nous soumettons à cette parole que le Seigneur Jésus a prononcée dans l'évangile de Jean au chapitre 15. C'est une parole tellement bien connue de tous les chrétiens. Mais il faut que nous nous appesantissions sur l'importance de cette parole. Écoutez comment Jésus parle. « Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, vous non plus. Vous ne pouvez pas porter du fruit si vous n'êtes pas attaché au cep. Et le cep, c'est Christ. Or, rien de plus cher pour le Seigneur que de faire sa demeure en nous, mais nous aussi, nous devons, par l'obéissance à sa parole, demeurer en lui. Car comment pouvons-nous dire que nous aimons notre Dieu? Seulement en obéissant à ses commandements, seulement en nous soumettant à sa parole. Mais écoutez bien, dans ce lieu, Jacob a fait une première expérience. Mais je voudrais vous faire remarquer un point. Même s'il a reconnu que Dieu était là et qu'il ne le savait pas, bien que son cœur ait été consolé, réconforté, bien qu'il découvre que malgré son indignité, le fait qu'il était un trompeur, Dieu ne l'abandonnait pas. Comme nous, nous pouvons dire que malgré nos infidélités, Dieu reste quand même fidèle à l'égard de chacun d'entre nous. Bien qu'il a pu découvrir cela, eh bien, fondamentalement, nous devons reconnaître son cœur n'avait pas été changé. La preuve, c'est qu'il a continué son voyage. Il est arrivé jusque dans la demeure de Laban, qui était un membre de la famille de son père, un oncle en réalité. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à tromper. Comme il avait trompé son frère, il continue à tromper son oncle. Son cœur n'avait pas du tout changé. Je voudrais en même temps souligner un point qui est assez étonnant. Je dois vous avouer que ça a été pour moi quelquefois difficile de comprendre cela. Mais l'Évangile me dit que les disciples ont marché avec le Seigneur, ils ont vu ses œuvres, ils ont admiré les miracles qu'il accomplissait, ils ont entendu sa parole, ils ont écouté ses messages, ses discours, les sermons qu'il faisait. Et puis, en même temps, eh bien, on découvre qu'il y avait une grande faiblesse. Et nous savons tous que même Pierre, qui semblait être le meilleur parmi eux, pourtant a renié aussi son Seigneur. Et Jésus a parlé un jour en ces termes, et il lui a dit, « Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Alors, ce n'est pas la question de conversion pour le salut. Pierre avait déjà fait une certaine expérience avec le Seigneur. Pierre avait tout quitté pour suivre le Seigneur. Mais vous reconnaîtrez avec moi, il y avait une expérience plus profonde qu'il n'avait encore pas réalisée, qu'il n'avait pas encore accomplie. Et cette expérience-là, nous le savons, elle est devenue son partage le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, ce même homme qui a renié son Seigneur se lève devant la foule qui est devant lui. Et moi je dis, c'est stupéfiant. Il parle avec une autorité particulière. Et il ose dire aux autres, « Vous avez renié le saint et le juste. » Moi, si j'avais été dans la foule à ce moment-là, je lui aurais dit, « Mais c'est toi, Pierre, qui l'a fait. » Mais voyez-vous, l'Esprit de Dieu l'avait changé, transformé. Maintenant, il pouvait parler avec autorité parce que quelque chose s'était passé dans sa vie. Je reviens à mon texte. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jacob? Il a continué à être un trompeur. Dieu l'a rencontré une fois encore, justement à Mahanaïm. Et là, il a frappé à la moiture de la hanche. Et curieusement, le prophète Osée, qui nous rapporte aussi cette expérience, nous dit que là, après avoir été frappé à la moiture de la hanche, eh bien, Jacob fut vainqueur dans ce combat, alors qu'en réalité, celui qui l'a humilié profondément et l'a fait devenir un boiteux pour qu'il ne compte plus sur lui-même, mais qu'il compte sur Dieu, il me semble que la victoire, c'était celle de Dieu, pas vrai? Pourtant, il est dit, Jacob fut vainqueur. Je me demande, comment a-t-il pu devenir un vainqueur? Savez-vous d'abord pourquoi Dieu l'a frappé à la moiture de la hanche? Parce que Jacob comptait toujours sur ses ruses, sur ses combines, sur les réactions de la chair. Il était toujours en train d'essayer de trouver un moyen de s'en sortir dans certaines difficultés. Et d'ailleurs, à un moment donné, comme il savait que son frère s'approchait de lui, Vous savez très bien ce qu'il a fait. Il a envoyé certains serviteurs à quelque distance et il a dit à ses serviteurs, « Quand vous rencontrerez mon frère, vous lui direz, « Voici mon seigneur Ésaü. Voici mon seigneur Ésaü. C'est ton serviteur Jacob. » Quel hypocrite, hein ? Quel hypocrite. C'est ton serviteur Jacob qui te fait ses cadeaux. Reçois-les. Mais vous savez, son frère n'était pas bien disposé à lui pardonner parce qu'il s'approchait avec une troupe, avec des hommes en armes. Réellement, il lui en voulait. C'était certainement pas comme cela qu'il pouvait s'en sortir. Alors, il fallait que Dieu intervienne. Et comment est-ce que Dieu est intervenu ? D'abord, il humilie Jacob. Il le frappe à la hanche et il devient boiteux. Comment voulez-vous qu'en face de son frère, rempli de haine et de colère, il prenne la fuite maintenant ? Il ne peut plus courir. Son frère peut le rattraper à n'importe quel moment. Il doit compter uniquement sur Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? En même temps qu'il a travaillé dans le cœur et dans le corps de Jacob, il a travaillé dans le cœur de son frère, si bien que lorsqu'ils se sont rencontrés, ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Et ça, c'était l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas le résultat des ruses ni des combines de la chair. Mes chers frères et sœurs, ce que la chair essaie de faire sans le secours de Dieu est toujours voué à l'échec. Et pour que Dieu puisse se glorifier dans notre vie et accomplir vraiment sa volonté, il faut que nous soyons vaincus par lui pour qu'à notre tour, nous devenions des vainqueurs. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. Non seulement Jacob a été blessé dans sa chair, mais au chapitre 35 du livre de la Genèse, nous avons encore la poursuite de l'histoire de la vie de Jacob. Jacob se retrouve à Bethel. C'est pourquoi ce lieu est tellement important. Et cette fois, il vient avec toute sa famille. Il y a ses femmes, il y a aussi ses enfants. Mais voyez-vous, dans les bagages, il y a aussi les idoles. Dans les bagages, il y a les dieux étrangers. Et là, à Bethel, que se passe-t-il ? Jacob vient vers Dieu et il abandonne toutes les idoles. Il les enterre profondément. Bethel, c'est ça. C'est le lieu où l'on abandonne les choses qui prennent la première place à Dieu. Mes frères et sœurs, c'est là où le Seigneur veut nous amener quelquefois dans notre vie. En nous examinant, chaque jour, nous pouvons être là dans la présence du Seigneur et laisser l'Esprit de Dieu nous sonder. Je voudrais vous dire, mes chers frères et sœurs, plus d'une fois, même en tant que serviteur de Dieu, je me suis trouvé au pied du Maître, avec beaucoup de larmes dans les yeux, parce que le Seigneur a mis le doigt sur certaines choses cachées dans les replis du cœur. Ne vous imaginez pas des choses grossières, des choses qui ne sont qu'un tas d'immondices, mais des choses qui sont quand même des obstacles entre lui et nous pour que nous ayons une véritable communion avec lui. Et là, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Là, nous enterrons nos idoles. Qu'est-ce que c'est une idole ? C'est ce qui prend la première place à notre Dieu. Ce n'est pas un objet en or, en argent, en plâtre ou en bois. C'est tout simplement des choses que d'un seul coup, l'Esprit de Dieu vient mettre en relief dans notre vie. Et il nous dit, tu vois, tu penses que tu es totalement consacré à Dieu, mais regarde ça. Regarde cette chose-là. Pour revenir encore aux écrits de l'apôtre, j'aimerais vous dire qu'à un moment donné, il s'exprime en ces termes. Et il dit, le temps est proche. Le temps est proche où le Seigneur va revenir. Le temps où nous sommes est en train de nous révéler que nous vivons les derniers instants de la grâce de Dieu. Et à cause de cela, l'apôtre Paul parle en ces termes. Et il dit, désormais, que celui qui vende soit comme ne vendant pas. Que celui qui achète soit comme n'achetant pas. Et il va même plus loin. Et il dit, et celui qui a une femme soit comme n'en ayant pas. Alors, première fois où j'ai lu cela, je me demandais ce qui m'arrivait. Parce que j'avais du mal à comprendre le sens de ce verset. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que le Seigneur me demande de mépriser ma femme, de laisser de côté ma femme? Est-ce que le Seigneur me demande de ne plus acheter, de ne plus vendre? Est-ce que le Seigneur me demande de ne plus avoir en quelque sorte les pieds sur cette terre et de ne pas me confronter aux choses de la vie comme n'importe qui peut le faire? Absolument pas, mes frères et sœurs. Cependant, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Même manger, boire, il est dit dans la parole de Dieu, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Alors, essayons de comprendre. Si quand je vends, j'ai un but égoïste, personnel, et que je recherche encore un intérêt personnel, au lieu de chercher à être dans le plan et la volonté de Dieu, bien, je suis en danger dans ma vie. Si mon épouse, que je dois aimer, puisque la Bible déclare « Marie, aimez vos femmes », comme Christ a aimé l'Église, vous vous rendez compte de la responsabilité? Alors, c'est presque incompatible. D'un côté, il dit « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». De l'autre côté, celui qui a une femme soit comme n'en ayant pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Je dois l'aimer plus que tout, sauf le Seigneur, bien sûr, mais jamais permettre que quelque chose en elle puisse me détourner de l'obéissance à la parole de Dieu. » Avez-vous lu dans l'Évangile comment Jésus parle? Il dit, si quelqu'un est, ou plutôt ne hait pas son père, sa mère, et ne me suit, il n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Alors que par ailleurs, il est dit ceci, honore ton père et ta mère. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Mais tout ce que dans mon père ou dans ma mère pourrait m'éloigner de la volonté de Dieu, ça, je dois le haïr. Ce n'est pas la personne en elle-même, mais ce qui en eux pourrait m'éloigner d'accomplir la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans la Bible il dit « Quand tout Christ soit le premier ». Vous voyez mes frères et sœurs comment, de temps en temps, il faut que nous nous retrouvions à Bethel. Et que là, eh bien, nous déposions aux pieds de notre Seigneur tout ce qui prend la première place. Et que nous nous renouvelions dans notre consécration et dans l'engagement de l'aimer et de le servir jusqu'à la fin. Après Bethel, il allait à Gilgal. Gilgal, c'est quoi? Dans le livre de Josué, nous avons justement le récit de ce qui s'est passé à Gilgal. Après la traversée du Jourdain, et vous savez comment c'est fait d'une façon miraculeuse, cette traversée du Jourdain, il est dit que le peuple de Dieu, à la suite de l'Arche de l'Alliance qui était portée par les souverains sacrificateurs, eh bien, le Jourdain s'est séparé et les hommes sont rentrés dans le Jourdain. Et puis là, dans le Jourdain, on a pris des pierres et puis on a élevé un autel. Suivez bien ma pensée. Puis ils ont continué le voyage, ils sont arrivés de l'autre côté, de l'autre côté du Jourdain, alors qu'ils avaient pris des pierres dans le Jourdain, ils ont aussi construit un autre autel. Et là, Josué a dit, maintenant, il faut que tous les jeunes gens qui, eux, n'avaient pas été circoncis, soient circoncis. Pourquoi ? Parce que ça, c'était le signe de l'alliance qui avait été contractée avec Abraham. Et dans le désert, eh bien, ils avaient suivi les autres, ils n'avaient pas été circoncis, et là, eh bien, tous les hommes ont été circoncis. Et c'est quoi la circoncision ? La parole de Dieu dit que ce terme Gilgal veut dire action de rouler. C'est-à-dire que Dieu a voulu ôter l'opprobre de l'Égypte, y oublier tout le passé, et c'est par un signe particulier qui était dans la chair que ce peuple pouvait reconnaître l'intervention de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, il est dit, les circoncis, c'est nous, au chapitre 3 et au verset 3. Nous qui avons la possibilité d'offrir un culte à Dieu, non pas sous l'influence et le pouvoir de la chair seulement, mais sous l'influence et l'action du Saint-Esprit. Vous voyez, mes frères et sœurs, regardez ici la différence qu'il peut y avoir. Vous avez certainement constaté, en ces temps particuliers, beaucoup, beaucoup d'églises ont mis l'accent sur un certain enthousiasme extérieur, sur une certaine joie artificielle, extérieure, suscitée par dans le fond, une certaine ambiance. Et on a cru offrir à Dieu un culte qui lui est agréable. La réalité, c'est que beaucoup de personnes dans ces endroits, eh bien, se satisfont eux-mêmes, se font plaisir eux-mêmes, peut-être par le moyen de la musique, par le moyen d'une certaine ambiance, par un spectacle même qui peut être présenté. Mais vous voyez, quand nous sommes rassemblés comme nous le sommes ce matin, notre seul et unique but, c'est vraiment de penser à celui qui a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons débarrassés du pouvoir du péché. Et la véritable circoncision, selon l'expression de la Bible, ce n'est pas celle qui est faite dans la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Et la circoncision du cœur, eh bien, c'est quoi ? Je dois vous dire, mes frères et sœurs, quelque chose que je ressens vraiment douloureusement. Essayons par comparaison avec l'histoire de ce peuple d'Israël. Israël est sorti de l'Égypte, mais on remarque dans sa marche dans le désert que s'il est sorti de l'Égypte, pour autant, l'Égypte n'est pas sortie de son cœur. La preuve, c'est que tandis qu'il marchait, eh bien, il pensait à quoi ? Aux melons, aux oignons, aux os, à tout ce qu'ils avaient laissé en Égypte. C'est-à-dire, ils avaient quitté le pays, mais l'esprit de l'Égypte était encore dans leur cœur. Mes chers frères et sœurs, ça nous amène à réfléchir. Nous avons pu sortir du monde. En fait, l'Église, c'est quoi ? La définition de ce terme « Église », ça veut dire « celle qui est appelée hors du monde ». Nous sommes sortis du monde à l'appel de notre Seigneur. Et beaucoup peuvent dire « oui ». Jésus est le Sauveur. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, Il faut pouvoir dire avec autant de vérité, non seulement il est mon sauveur, mais il est mon Seigneur. Et s'il est mon Seigneur, alors l'esprit du monde, avec tout ce qui le caractérise, ne doit pas nous caractériser. Parce que l'esprit du monde, c'est quoi ? C'est l'orgueil, c'est les plaisirs, c'est la joie artificielle. Vous savez, beaucoup peuvent avoir un sourire comme aussi large qu'il atteint les deux oreilles, n'est-ce pas ? Mais dedans, il n'y a pas de véritable joie. Et Jésus parle de la joie intime et pure qu'il est capable de mettre dans le cœur. Écoutez le Seigneur. Il dit à un moment donné, « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Quand est-ce que Jésus a parlé comme cela ? Il était là en ayant la perspective de la croix. Il était à quelques heures de la croix, à quelques heures de la pire des souffrances. Et Jésus pourtant dit, « Je vous déclare ces choses, afin que ma joie soit en vous. » La joie de l'esprit, la joie qui est fruit de l'esprit, c'est cette joie qui nous permet de nous réjouir dans l'accomplissement de la volonté de notre Dieu. Quand nous sommes conscients d'être dans le plan de Dieu, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le Seigneur nous désire aussi nous amener quelquefois là, à Gilgal, pour que nous comprenions qu'il veut rouler le passé, que nous en sommes débarrassés par la croix. C'est pourquoi même cet homme duquel je ne cesse de parler ce matin a dit « Je suis crucifié par rapport au monde, comme le monde l'est crucifié par rapport à moi. » Et c'est la croix, le seul moyen par lequel, eh bien, nous sommes délivrés de l'esprit de ce monde pour suivre le Seigneur dans un amour sincère et véritable et avec une grande joie dans notre cœur. Voilà Gilgal. Et puis Samuel a continué. Il a essayé de voir là, à Gilgal, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le fruit que le peuple porte ? Par rapport à l'expérience de Gilgal, a-t-il oublié Gilgal ? Comme il a-t-il oublié Bethel et l'expérience de Bethel ? Il constate, il voit, il juge. Il va un peu plus loin et il arrive à Mitzpah. Ah, Mitzpah, c'est quoi ? Mitzpah, c'est une ville de refuge. Vous trouvez cela dans le livre des Nombres, vous trouvez aussi cela dans le livre de Josué. Mitzpah, une ville de refuge, ça veut dire que le criminel, je dirais involontaire, eh bien trouver un refuge là pour se mettre à l'abri de l'esprit de vengeance de la part de la famille qui avait perdu quelqu'un par un crime quel qu'il soit. Et là, dans cette ville, personne n'avait le droit de le toucher. Nous savons où est notre refuge, pas vrai ? Nous connaissons bien ce verset de l'Écriture qui affirme « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. » Mais qu'est-ce qui s'était passé à Mitzpah pendant la vie de Samuel ? Vous savez qu'il y a toujours eu une sorte de guerre entre Israël et les Philistins. Il y a eu toujours des combats. Et à un moment donné, eh bien, ce même livre de Samuel, dans les chapitres précédents, nous fait constater qu'à deux reprises, Israël a été vaincu par les Philistins. La première fois, ils ont perdu 4000 hommes. La deuxième fois, ils en ont perdu 32 000. Et quand ils ont perdu 32 000 hommes, c'est pourtant la fois où Israël s'est dit, si nous avons été vaincus une première fois, c'est parce que nous avons oublié de prendre avec nous l'Arche de l'Alliance. Alors, on va faire venir l'Arche de l'Alliance, qu'elle passe devant nous. Et puis là, nous serons sûrs d'avoir la victoire. Et le jour où ils ont fait venir l'Arche de l'Alliance, alors les Hébreux ont poussé un cri de joie incroyable. Vous voyez, c'était vraiment quelque chose de surprenant. À tel point même que les Philistins, qui n'étaient pas si loin que ça, eh bien, ont entendu ce cri, et les Philistins se sont exhortés mutuellement. Et ils ont dit, Philistins, soyez des hommes, car les dieux, vous voyez, les Philistins, ce sont les étrangers, ils ne connaissent pas la réalité. Ils disent, les dieux qui ont permis à Israël de triompher sont venus. Et maintenant, si vous voulez vaincre, il faut que nous soyons forts, fortifiez-vous. Et effectivement, ils se sont fortifiés, ils ont agi, et Israël a été vaincu. On pourrait se poser la question, pourquoi Israël est vaincu? Puisque l'Arche de l'Alliance était là, puisque la loi était là, puisque ce qui représente la gloire de Dieu était là. Oui, mais écoutez bien, en même temps, que l'arche est entrée dans le camp des Hébreux, il y a deux hommes qui sont Ophni et Phiné, les deux fils du souverain sacrificateur, qui étaient corrompus. La Bible ne nous cache rien de l'état moral de ces deux hommes-là. Et il est dit qu'ils couchaient avec les femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Vous vous rendez compte ? La même où autrefois, la gloire de Dieu se manifestait avec une telle puissance que les hommes ne pouvaient pas y rester. Eux se permettaient de vivre dans la corruption et de plus, ils prélevaient des offrandes qui étaient réservées à Dieu et ils se les attribuaient. Quand je parle de ces offrandes, ce n'était pas de l'argent, c'était les meilleures parties de l'Holocauste et qu'il s'attribuait meilleur morceau, alors que Dieu lui-même avait donné une loi très précise, et ces deux corrupteurs, ils marchaient avec l'Arche de l'Alliance. Les hommes ne pouvaient pas s'en rendre compte, mais Dieu le voyait. Et c'est la raison pour laquelle le peuple a été vaincu. Alors, 20 ans s'est écoulé. Vous savez, des fois, c'est long de comprendre le plan de Dieu. 20 ans s'est écoulé. Et enfin, Israël, devant cette situation tragique où rien ne bougeait, rien ne se manifestait de la part de Dieu, il n'y avait aucune manifestation de la gloire de Dieu. Au bout de 20 ans, ils vont trouver le prophète Samuel, qui lui, par contre, n'avait pas changé. Lui, l'itinéraire, il le faisait toujours. Il veillait sur sa vie. Il n'avait pas changé le message, il n'avait pas changé absolument en quoi que ce soit. Et Israël vient trouver Samuel. Samuel, prie pour nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu interviennes. Et Samuel va leur parler en ces termes. Il leur dit, c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel? Parce que voyez-vous, il peut y avoir des faux semblants, il peut y avoir des apparences. Et la Bible dit que Dieu ne se fie pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Et il dit, c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel? Alors si c'est de tout votre cœur, venez avec moi, on va se retrouver à Mitzpah. Vous voyez, Mitzpah, ville de refuge. Ça veut dire aussi cité de contrôle. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répandu de l'eau devant l'Éternel. Ils ont jeûné, prié, et ils se sont tenus devant Dieu. Et le fait de répandre de l'eau devant l'Éternel, c'est un peu le symbole de notre âme qui se répand devant Dieu sans rien cacher. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut cacher dans de l'eau? La Bible dit que devant le trône de l'Éternel, il y a une mer qui est comme du cristal. Qu'est-ce qu'on peut cacher dans du cristal? On peut cacher dans de l'or, on peut cacher dans de l'argent, Mais peut-on cacher quelque chose dans du cristal? C'est impossible. Voilà comment Dieu veut nous amener à être vrais, authentiques. Quand nous perdons l'authenticité, la véracité, alors nous sommes en danger. Et là, à Mitzpah, ils ont répandu l'eau, ils se sont tenus devant Dieu, ils ont jeûné, ils ont prié. Et vous savez, Dieu dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins étaient sur la montagne et eux étaient prêts à attaquer. Mais voyez-vous, Dieu a fait retentir un puissant tonnerre sur la tête des Philistins et la Bible dit, ils s'enfuirent et ils ne revinrent plus. Lorsque nous triomphons, il faut toujours y revenir. Lorsque Dieu triomphe, c'est définitif. Et c'est ce dont nous avons besoin. Mitzpah, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mes frères et sœurs, que dans notre vie, nous ne serons pas épargnés d'épreuves, nous ne serons pas épargnés par les difficultés, que nous aussi, nous pourrons avoir des luttes, des combats, que l'adversaire se dressera devant nous en essayant d'être comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Cette lutte-là, nous aurons à la mener jusqu'à la fin. Des mitzpahs, il n'en manquera pas dans notre existence. Je voudrais vous donner une petite illustration. Un certain et illustre serviteur de Dieu avait l'habitude de dire, quand il était dans certaines épreuves, une phrase qui semblait illogique. Il disait toujours « marteau, fournaise et lame ». Marteau, fournaise et lame. Et puis les chrétiens entendaient cela. Puis un jour, il y en a un qui lui a dit, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Et il a donné cette explication. Il a donné au travers d'une petite illustration. Et il dit, voyez-vous, le marteau, c'est un instrument très utile pour enfoncer le clou dans le bois. Et le charpentier l'utilise avec une grande efficacité. Il dit, cependant, le clou, qu'est-ce qu'il pense du marteau? Et le clou, il dit ceci. Le clou dit du marteau que c'est un maître méchant qui lui tape toujours sur la tête et qui ne fait que l'enfoncer toujours plus profondément dans le bois. Et d'un seul coup, le pasteur dit, mais voyez-vous, le marteau et le clou sont tous les deux dans la main du charpentier. Alors il y en a qui sont des marteaux pour nous. Ils nous tapent sur la tête et ils nous enfoncent. Et si c'est pour être comme le clou dans le bois de la croix, c'est pas si mal que ça. Et voyez-vous, Dieu a entre ses mains non seulement ceux qui sont fidèles, mais aussi les autres qui sont ennemis de la croix. Vous savez, Job, il a fait cette expérience. Satan est celui qui a provoqué Dieu. Avez-vous remarqué, c'est pas Dieu qui dit, as-tu remarqué là, un petit peu? Non, 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 non. Ou plutôt, oui, c'est lui qui dit, as-tu remarqué? Il éveille quoi? Il éveille dans l'esprit de Satan quelque chose qui dit, « Ah, ben oui, bien sûr, il t'est fidèle parce que tu le combles de bienfaits, mais laisse-moi un peu lui prendre et tu vas voir comment il va réagir. » Vous voyez comment est le diable? Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ah bien, agit. Il est entre les mains de Dieu. Alors nous, on dit toujours, « C'est le diable qui a fait cela. » Oui, mais qui est-ce qui contrôle le diable? C'est Dieu. Et nous pouvons dire, c'est un tel, c'est un autre tel, c'est celui-là, c'est celle-là. Mais qui est-ce qui contrôle? C'est Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Et vous voyez, même la fournaise, elle est utile. Même si c'est le diable, comme nous avons l'habitude de dire, qui l'allume. Parce que pour nous, elle n'a qu'un seul pouvoir. de brûler, de consumer ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais le reste, ça demeure. Parce que le diable ne peut pas l'atteindre. Alors vous voyez, Mitzvah, c'est nécessaire. Il y a peut-être ici un frère ou une sœur qui ce matin, et il me semble avoir entendu cela dans la prière, se trouve dans une impasse, dans un moment difficile, dans une situation critique, peut-être dans une épreuve qui est au-dessus de ses forces. Mais je dois dire, rien n'est permis par Dieu qui ne soit pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Dieu, il a le pouvoir de agir profondément, même en utilisant les choses les plus difficiles dans notre existence. Permettez-moi de vous dire, mes chers frères et sœurs, que les plus belles leçons, je ne les ai pas reçues quand tout allait bien dans ma vie, mais bien souvent quand ça allait mal. Dans les plus grandes épreuves, c'est là aussi que Dieu parle et qu'il nous permet de découvrir des choses qui, sans elles, ne pourraient pas être réalisées. Ne l'oubliez pas. Alors, j'en arrive à la fin. Après Mitzvah, eh bien, il allait à Rama. C'est le lieu de naissance, puis ça a été aussi le lieu où il a été enseveli. Et là, à Rama, qui signifie hauteur, eh bien, il était comme un adorateur. Il jugeait encore Israël là, et nous devons nous tenir toujours sur les hauteurs. Ça veut dire quoi, nous tenir sur les hauteurs? Oh, mes frères et sœurs, avons-nous oublié ce que la Bible déclare au sujet de Jésus? Après avoir été profondément humilié, il a été souverainement élevé et il est assis à la droite du Père. Et Jésus a dit, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné y soit aussi. Pas seulement après la mort. Ça, c'est une glorieuse réalité. Parce qu'alors, tel il est, tel nous serons. Après la mort, c'est sûr que nous serons là. Mais voyez-vous, par le moyen de la foi, là où il est, nous pouvons être aussi. C'est-à-dire conscients que par sa mort, sa puissante résurrection, glorieuse résurrection, et par la puissance de la vie de résurrection qui a sorti Christ du tombeau et qui nous a sortis de notre mort spirituelle, nous aussi, nous pouvons être plus que vainqueurs. Si quelqu'un un jour vous a dit que les chrétiens devaient être débarrassés de toutes les épreuves, n'oubliez pas et sachez que ceux qui vous ont dit cela, ce sont des menteurs. Parce que nous pouvons connaître les pires des épreuves, et des fois même, sans en être délivrés ici-bas sur terre. Parmi les héros de la foi, il y a ceux qui ont réalisé des exploits, et ils ont fait des choses remarquables, jusqu'à retrouver des morts par le moyen de la résurrection. Mais il y a aussi les autres, qui ont été considérés comme indignes par ce monde, et qui ont été méprisés, qui ont été torturés, qui ont été sciés, c'est ce que dit la parole de Dieu, et ceux-là sont aussi héros de la foi. Ne l'oublions pas. Cependant, nous nous sommes habitués, nous, peuple de la Pentecôte, à croire que finalement, le Dieu puissant que nous avons, il devait toujours nous débarrasser de toutes nos épreuves. Eh bien, il nous en débarrasse, ou alors il ne le fait pas, mais il nous donne la force de traverser. Et ça, c'est glorieux. Que le Seigneur nous aide à comprendre et que Dieu vous bénisse. Seigneur, s'il te plaît, nous continuons à te demander que tu nous aides à te rester fidèles envers et contre tout, en marchant selon ton conseil et sous le contrôle de ton esprit. Merci pour mes frères et sœurs ici présents. Merci pour tout ce que tu as été et tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Parce que Seigneur, tous, nous avons pu constater combien tu es un Dieu fidèle. Et nous ne pouvons pas oublier que malgré ce que les uns et les autres, nous avons pu traverser de différentes manières au cours des années qui se sont écoulées dans notre marche avec toi, toi Seigneur, tu ne nous as jamais fait défaut. C'est pourquoi nous te rendons grâce ensemble et nous te louons, te demandant encore de fortifier notre cœur et l'enraciner profondément dans ton amour afin que nous puissions être persévérants jusqu'à la fin. À toi seul soit toute la gloire, Seigneur. Amen.